enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Dans la parole de Dieu, que l'homme a été précipité dans le sous-développement par la désobéissance qu'il a manifestée vis-à-vis de Dieu, qu'il avait placé dans le jardin d'Éden, où le problème du sous-développement ne se posait pas. Au contraire, le jardin d'Éden a été façonné pour l'homme, c'est-à-dire qu'il correspondait à ce que l'homme pouvait aspirer au plus profond de lui. Il n'y avait rien à développer, il n'y avait rien à rechercher. Dans la mesure où l'homme a désobéi, donc Dieu a chassé l'homme de cet environnement qui était un environnement fait pour lui, qui correspondait à ses désirs et à ses sentiments, pour le placer dans un contexte ingrat où il devait désormais se battre pour vivre. C'est ce que nous avons vu. Donc, pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui sommes chrétiens, le sous-développement est d'abord un état de péché. C'est d'abord un état dans lequel Dieu a placé l'humanité et lui a dit « Désormais, tu mangeras la sueur de ton front. Désormais, le sol va te refuser ses produits. Désormais, il y aura des ronces et des épines. » Et voilà donc dans quel contexte l'homme s'est trouvé maintenant avec une aspiration au développement. Une aspiration, mais ce développement n'était plus accompli dans la mesure où il y avait un décalage entre lui, entre ses aspirations, ses désirs et l'environnement qui l'entourait. Voilà pour nous la base du sous-développement de l'humanité. Après, nous avons vu que chaque peuple, chaque nation est néanmoins plongé dans un contexte particulier. Aujourd'hui, on peut parler des pays développés selon donc le modèle que nous avons aujourd'hui du développement économique, du développement social, et donc d'autres qui sont sous-développés parce qu'ils évoluent dans un état presque archaïque, parce qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à satisfaire leurs aspirations, les aspirations de leur peuple vis-à-vis de ce que nous regardons comme le développement, vis-à-vis de ce que nous regardons comme ce qui est bien pour l'homme. La vie de l'homme représente la vie d'une société en miniature. C'est-à-dire qu'une société est composée d'un ensemble de personnes. Donc si nous disons qu'une société est sous-développée, nous devons saisir ce sous-développement au niveau de l'individu. Lorsque nous disons qu'un pays est développé, nous devons voir que ce qui compose ce pays, ce qui compose cette société, constitue des hommes développés dans leur vie. C'est-à-dire que des personnes qui ont réussi à créer une harmonie entre ce qu'ils pensent, eux, être bien pour leur vie et les conditions dans lesquelles ils évoluent, dans leur ville, dans leur maison, et qu'ils disent « Oui, c'est vraiment bien, nous sommes vraiment privilégiés. » Le développement, c'est cet environnement qui permet de manifester le potentiel que Dieu a mis en nous. Parce que lorsque Dieu a banni l'homme du jardin d'Éden, il n'a pas enlevé en lui totalement l'esprit de Dieu, l'image de Dieu, qui nous permet d'aspirer néanmoins aux bonnes choses. Lorsque nous sommes en prison, même si nous sommes nés en prison, il y a au-dedans de nous un esprit qui aspire à la liberté. On pourrait se dire, mais comment il n'a jamais connu la liberté, comment il aspire à la liberté? Lorsqu'on est né esclave, il y a néanmoins en nous un esprit qui refuse l'esclavage. C'est cette aspiration qui nous donne de voir ce qu'est le développement. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans des conditions difficiles, nous ne pouvons pas nier qu'il y a au-dedans de nous le désir de vivre dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous constate que le Seigneur est bien placé pour nous parler de ces choses. Dans Ézéchiel 37, le Seigneur nous parle des ossements desséchés, la vallée des ossements desséchés. En nous parlant de cela, le Seigneur dépeint lui-même un état de précarité, un état de sous-développement. C'est-à-dire que Israël représente là l'image d'un peuple sous-développé, d'un peuple en difficulté, d'une nation qui ne prospère pas, mais qui tombe dans les calamités, dans la malédiction. Et pour bien comprendre ce texte, nous pouvons aussi nous référer au livre de Deutéronome 28 pour voir que Dieu lui-même avait déjà proclamé sur la vie d'Israël la bénédiction ou la malédiction. La malédiction étant la décroissance et la bénédiction la croissance. Donc, nous pouvons dire que la malédiction c'est le sous-développement et la bénédiction c'est le développement. Et c'est ce que vous pouvez comprendre en lisant ces deux textes. Mais pour revenir à Ézéchiel 37, j'aimerais que nous puissions savoir que ce qui se passe dans le monde naturel est avant tout une réalité spirituelle. Les choses visibles procèdent des choses invisibles. Et j'aimerais que chacun de nous soit attentif. Parce que lorsqu'on commence à parler de sous-développement en tant que réalité spirituelle, là nous sommes concernés au premier plan. Parce que c'est nous qui sommes les chrétiens. C'est nous qui sommes attentifs aux réalités spirituelles. Nous pouvons lire à partir du verset 3.
Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, éternel, tu le sais. » Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse.
S'il y a une réalité spirituelle au sous-développement, c'est-à-dire l'incapacité pour l'homme de vivre et de manifester la vie. La vie est le symbole de ce qui se développe, de ce qui croit, de ce qui grandit, de ce qui respire, de ce qui est beau à voir, de ce qui est merveilleux, de ce qui donne l'espoir. C'est ça la vie. Or, ici, Dieu ne voit pas qu'Israël vit. Israël est mort. Et pourtant, physiquement, ils sont vivants. Mais spirituellement, ils sont morts. Spirituellement, ils ne sont pas dans la bénédiction. Spirituellement, ils sont dans la malédiction. Spirituellement, ils ne peuvent pas résister à leurs ennemis. Spirituellement, ils ne peuvent pas dominer sur la situation. Et comme nous avons entendu, lorsque vous allez lire plus loin, vous allez voir que les ossements desséchés, qui sont donc l'état d'une personne bloquée, d'une personne liée, d'une personne dans l'incapacité de se mouvoir, de se développer, il y a un environnement de désolation. Donc, il y a des charognards qui mangent, qui se nourrissent dans la vallée des ossements. Donc, il y a des asticots qui font leur travail. C'est la vallée des ossements. Et spirituellement, nous pouvons comprendre donc qu'il y a des esprits de sous-développement. Il y a des esprits de sous-développement. Premièrement, celui qui lui-même est venu dans le jardin d'Éden pour causer la perte de l'homme. Satan donc va agir pour tenir l'homme dans la calamité. Parce que c'est lorsque l'homme est effectivement dans cet état d'insatisfaction. C'est lorsque l'homme est dans la malédiction que lui peut vraiment travailler. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Job. Pourquoi Satan est allé demander à Dieu de pouvoir placer Job dans un état de précarité? Il a essayé d'attaquer Job, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que Job était satisfait de ce que Dieu faisait et Job, effectivement, louait le Seigneur. Il louait le Seigneur, donc il y avait une alliance, une harmonie. Job était vivant. Il y avait la vie, il y avait le développement. Mais lorsque l'homme est plongé dans un état de précarité, c'est là que la confusion vient. C'est là qu'on n'a plus la force de louer. C'est là qu'on commence à se dire, « Oh, Dieu est trop loin, il faut que j'aille chercher le marabout. » C'est là qu'on commence à faire du n'importe quoi, parce qu'on n'est plus satisfait. Et qui sont les charognards qui se nourrissent de la chair? Qui sont les asticots qui viennent ranger de telle sorte que la vallée devient remplie des ossements? Ce sont tous ces esprits qui prospèrent là où il y a des morts, là où il y a la mort. Le diable doit produire des œuvres mortes. Et c'est plus facile dans la vallée des ossements. Nous devons être conscients de cela. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, « Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. » Le développement ou le sous-développement. C'est une réalité. Dans le livre de Deutéronome, il dit, tu seras, si tu obéis bien, tu seras béni. L'Éternel te comblera de bien. L'Éternel fera fuir tes ennemis par sept chemins. Mais comment, par exemple, Dieu fait fuir tes ennemis par sept chemins? Lorsque Dieu dit, par exemple, à un pays aujourd'hui que je ferai fuir tes ennemis par sept chemins, qu'est-ce qui va se passer dans la réalité? Est-ce que ça veut dire que lorsque des nations vont se lever pour venir combattre vers toi, ils vont tout à coup prendre la fuite tout seuls? Dieu va fortifier ton bras. Je suis l'Éternel qui aiguise ta main au combat et tes doigts à la bataille. C'est-à-dire, Dieu va te rendre plus fort que tes ennemis. Il va te rendre plus fort. Ceux qui viendront vers toi, ils vont prendre la fuite. Lorsque Dieu dit que je te comblerai des biens, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je bénirai tes entreprises. Ça ne veut pas dire que tout à coup, tu te réveilles, tu vois que tes greniers sont remplis, tu ne sais pas qui les a remplis. Ça veut dire que Dieu va te donner la croissance. Ça veut dire qu'il va faire pleuvoir sur tes champs pour que tes champs produisent. Et la dernière fois, Ralph Messer, lorsqu'il est venu, le rabbin qui nous a visité, il nous a bien expliqué que pour eux, la Torah, ce sont les instructions de Dieu pour marcher sur la terre, pour savoir marcher sur la terre. Et il t'explique que, oui, c'est vrai, vous êtes les champions du salut, c'est-à-dire rentrer au ciel. Mais nous, on est les champions de comment vivre sur la terre. C'est-à-dire qu'ils savent se développer. Et nous pouvons nous tous constater qu'un pays comme Israël ne peut pas se permettre d'être dans un état de sous-développement. Ils ne tiendront même pas. Ils ne tiendront pas, ils ne pourront pas échapper à l'étau de leurs ennemis. Ils sont obligés d'être une nation développée pour pouvoir tenir, parce qu'ils sont encerclés par des nations qui sont ennemies. Mais il faut que tu commences à comprendre un peu ta propre vie. Il y a beaucoup de façons d'être, de se sentir développé ou d'être développé. Nous pouvons appartenir à un état ou à un groupe de personnes développées et nous sentir nous-mêmes développés parce que nous sommes là. Un pays peut bénéficier des ressources naturelles ou des technologies qui permettent à ce pays de pouvoir entraîner son peuple dans le développement. Donc, pouvoir créer des conditions pour aider, pour faciliter et faire que son peuple puissent vivre mieux que d'autres peuples, avoir déjà au niveau de l'espérance de vie, nous pouvons voir effectivement que dans les pays où les conditions sont réunies, eh bien les gens vivent aussi pendant plus longtemps. Ils ne meurent pas par les mêmes maladies qui tuent les gens qui sont dans le sous-développement. Donc un État peut créer des conditions de développement. Mais ce n'est pas la seule façon pour un peuple d'être développé. Et ce n'est même pas la meilleure façon. L'autre façon d'être développé, c'est d'avoir un État qui bénéficie d'un peuple développé. C'est-à-dire des personnes qui se lèvent, qui font alliance avec la bénédiction de l'Éternel et qui travaillent pour pouvoir être développés et de développer leur pays. Donc un développement qui vient de la base, un développement à la disposition de tout le monde. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que c'est ce développement-là que Dieu veut. C'est ce développement-là. Dieu dit à chacun de nous, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Dieu dit, je bénirai tes entreprises. Dieu dit que celui qui se tourne vers lui sera béni. Dieu veut, et lorsque Israël est rentré dans le pays de Canaan, chacun a reçu un lopin de terre pour se développer, pour prospérer. Et c'est de ce développement-là que je veux parler. Parce que c'est très facile pour nous de nous dire, ah, nous sommes dans un pays sous-développé, c'est pour ça que nous ne sommes pas développés. Mais même dans un pays sous-développé, des individus peuvent se développer. La preuve, dans un pays développé, il y a des individus sous-développés. Et chacun de nous peut se poser la question de savoir s'il est développé. Est-ce que lorsqu'on vient chez toi, on peut dire qu'on est vraiment en France? Oui, il faut bien s'en rendre compte. Je peux vous dire que si on prend quelqu'un là-bas, quelque part, on bande les yeux, on le met dans l'avion, il arrive et qu'il atterrit directement dans certains lieux, dans certaines maisons, et qu'on lui dise que tu es en France, il dit, ah non, c'est pas vrai. Là, je ne suis pas en France, là. Là, je ne suis pas en France. C'est lorsqu'il va sortir, qu'il va voir tout ça de voitures dehors, qu'il va dire, je suis vraiment en France. Je suis en France et vraiment la France est développée. Mais c'est cette maison qui a un problème. De la même manière, quand on te prenne ici en France, on te met un bandeau, quand on mène quelque part, par exemple dans un pays comme le Congo, par exemple, ou dans n'importe quel pays, même Haïti, et quand on mène dans certaines maisons, tu vas te dire, on te dit que je suis ici en Haïti, ou je suis ici au Congo, tu vas dire, mais non, là je suis aux États-Unis. Attends, une telle maison. Donc il est temps que maintenant chacun de nous s'interroge sur le développement personnel. Si nous continuons à pouvoir trouver des boucs émissaires, si nous continuons à attendre que nos États, nos gouvernants puissent nous développer, nous pouvons être sûrs, et tu peux être sûr que ta génération passera, rien ne se fera. La plupart des pays sous-développés vivent de la cueillette. C'est-à-dire, il y a du pétrole, tu vas récolter le pétrole, tu vends. Mais lorsque le pétrole va se terminer, tu fais comment? Tu as telle matière première, tu vends. Ce n'est pas toi-même qui le développe. Et lorsque ton puits sera épuisé, tu fais quoi? Tu retombes dans le sous-développement. En tout cas, beaucoup de pays ont connu ce phénomène. Parce que je prends l'exemple de mon pays qui était un pays socialiste, basé sur le fait que c'est l'État qui fait tout. Donc, l'argent du pétrole a coulé, tout le monde est devenu fonctionnaire, tout le monde est devenu ceci, tout le monde est devenu ça. Et lorsque maintenant les difficultés sont arrivées, lorsque maintenant le pétrole ne suffisait plus à faire ces choses, tout le monde s'est retrouvé presque paria. Parce qu'on a oublié de se développer, on a oublié d'aller cultiver la terre, de pouvoir développer tes légumes, de développer telle chose. Et ça pose d'énormes problèmes. Et alors on prend tout le monde, on dit, bon, écoutez, vous là qui venez des pays sous-développés, on vous met dans une catégorie, vous êtes le tiers monde. Qui veut être dans le tiers monde? Est-ce que lorsque Jésus a dit à son père, « Père, je ne te demande pas de les retirer du monde », est-ce qu'il a dit « Mets-les dans le tiers-monde » Non. Tu es dans le monde et tu as une fonction principale que Jésus t'a donnée. C'est quoi cette fonction? C'est d'être la lumière du monde. Bon, commence un peu à réfléchir à être la lumière du monde. Souvent, je vous ai parlé de Lazare. Lazare était un fils d'Abraham. À sa mort, il a été recueilli par Abraham, dans le sein d'Abraham, non? Donc, si Lazare vivait à notre époque, il serait qui? Ben, il serait comme toi, un chrétien. D'accord? Mais non, mais attendez, vous êtes avec moi ou pas? Est-ce que Lazare serait un chrétien aujourd'hui ou pas?
Oui.
Voilà. Bon. Est-ce que Lazare a pu éclairer la vie de l'homme riche? Est-ce que Lazare peut éclairer la vie de sa génération?
Non.
À cause de quoi?
À cause de...
Oui, à cause du sous-développement. Il est sous-développé. Il était sous-développé. Ce que je veux vous dire, c'est que même si tu adoptes, même si tu veux faire comme Lazare, ce n'est pas ça qui remet en cause ton entrée dans le paradis. Riche ou pauvre, Dieu va t'accueillir. Mais là, nous parlons du monde. Là, nous parlons de briller sur la terre. Lorsque Dieu dit que nous sommes la lumière, c'est la lumière du monde. Il n'a pas dit que nous sommes la lumière du paradis. Il n'a pas dit que nous sommes la lumière dans le royaume. Nous sommes la lumière du monde. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui. Il faut bien comprendre comment nous allons briller. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse. Et pourquoi l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse? Parce que les hommes ont besoin de sagesse. Et qui porte la sagesse? C'est toi, c'est vous les enfants de Dieu. Bon, lorsque tu veux emmener la sagesse devant le monde pour pouvoir les instruire, pour pouvoir qu'ils se tournent vers Dieu, qu'est-ce qu'on va regarder? On va voir ton état. Et si tu es pauvre et misérable, est-ce qu'ils vont écouter? Pourquoi? Parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Nous devons nous en rendre compte. Nous sommes la lumière du monde et nous devons briller. Et nous devons accepter de briller. La Bible dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Mais souvenez-vous dans Matthieu 5, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit « Heureux les pauvres ». Oui? Heureux les pauvres. Heureux les affligés. En français, on aime bien ajouter les pauvres en esprit. Moi, je dis « Heureux les pauvres ». Jésus dit « Heureux les pauvres ». Le Seigneur n'a pas dit en esprit. Ça, c'est la traduction française qui ajoute ça. Parce que Jésus a vraiment trouvé des pauvres. Sans espoir. Il a dit vous êtes heureux. Et pourquoi ils doivent être heureux? Pourquoi ils doivent commencer à se réjouir? Parce que quoi? Parce qu'ils sont près de lui? Mais ça veut dire quoi encore? Oui, mais c'est quoi? Quel est le mot que le Seigneur utilisait? Mais oui, le royaume des cieux s'est approché. Ça veut dire que vous aurez des révélations. Vous aurez des clés maintenant pour changer votre état. Vous étiez enfermé dans la malédiction, dans le sous-développement. Mais maintenant, je suis venu avec la bénédiction. Maintenant, vous allez pouvoir vous développer. Et si vous comprenez ça, si vous comprenez que c'est exactement ce que Jésus est en train de leur dire, que le royaume de Dieu s'est approché, vous allez comprendre la parole. Lorsque dans la parabole, après la parabole du jeune homme riche, lorsque Jésus a dit qu'il est difficile pour un homme qui se confie dans ses richesses de rentrer dans le royaume de Dieu, Pierre était dans un état, il dit, mais c'est pas possible. Qui va pouvoir rentrer dans ton royaume? Nous avons tout quitté. Et maintenant, on ne sait même plus dans quoi on se trouve. Jésus a dit, personne qui aura quitté père, mère, maison, tout ce que vous voulez, terre, ne recevra en retour, dans ce siècle-ci, c'est-à-dire sur la terre, des pères, des mères, des maisons, des terres, et des tribulations, bien sûr, et dans le siècle à venir, le royaume de Dieu. Ça, et la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, je suis venu vous apporter la vie éternelle, mais je suis aussi venu vous apporter la rédemption. C'est-à-dire que je suis venu vous faire prospérer. Je suis venu vous donner la vie en abondance sur cette terre. Je suis venu vous donner cette vie. C'est lorsque vous allez porter beaucoup de fruits, toutes sortes de fruits, que mon Père sera glorifié. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Que les brebis aient la vie en abondance. Il faut déjà comprendre que lorsque le Seigneur parle de ça, c'est de ça qu'il parle. Il parle de la possibilité pour ceux qui ont maintenant la révélation et la faveur de Dieu, la grâce de Dieu par l'agneau de Dieu qui ôte le péché, de pouvoir accéder maintenant à la bénédiction. Jésus est venu libérer la bénédiction sur ceux qui étaient maudits et qui étaient condamnés à vivre dans la souffrance. C'est de ça que le Seigneur parle. Et lorsque nous aurons compris que le Seigneur nous parle à nous de nous développer, là nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a enseigné avec une telle ardeur les enseignements sur parabole des mines, des talents. C'est là que vous pouvez comprendre. Parce qu'il a insisté sur le fait de développer ce que nous avons reçu. Il a insisté. C'est lorsque vous portez beaucoup de fruits que mon Père est glorifié. Il a insisté sur le fait que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Lorsque Dieu t'envoie vers la veuve et l'orphelin, et qu'il dit que tu es le sel pour eux, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois avoir la possibilité de leur donner le pain qu'ils n'ont pas. C'est là que tu es pour eux le sel dans leur vie calamiteuse. C'est là que, véritablement, par ton geste, que la situation va vraiment retrouver vraiment une saveur. Lorsque Dieu dit que nous sommes la lumière, cela veut dire que par notre expression, nous allons éclairer tous les domaines de la vie de notre génération. Pour nous, ça va être très facile d'aller peut-être parler aux pauvres pour pouvoir les consoler. Oui, oui, Dieu va faire pour toi. Mais est-ce qu'il n'y a que les pauvres qu'il faut éclairer? Ça veut dire que nous devons éclairer aussi des hommes riches parce qu'eux aussi sont dans des pestes ténèbres. Mais comment tu vas avoir accès à eux? Tu dois démontrer. Et c'est ce que le Seigneur voulait faire comprendre à Pierre. Lorsque Pierre était triste de voir que Dieu, le Seigneur, a dit cette parole sur le jeune homme riche, et il a cru qu'il y a un problème. Donc ça veut dire que je ne peux pas devenir riche. J'avais entendu cette prédication où il a dit, heureux les pauvres au fond. Au fond, si on est riche, on ne peut pas rentrer dans ce royaume. Là, ça me pose un problème. Je dois devoir choisir de rentrer dans ce royaume et d'être pauvre. Mais moi aussi, j'ai toujours aspiré à la richesse. Comme je vous ai dit que nous avons, nous, des aspirations. Et le Seigneur lui a donné cette parole pour lui faire comprendre. Écoute, Pierre, je ne suis pas en train de te condamner d'être pauvre. Mais il faut d'abord me suivre. Et c'est ce que j'ai voulu dire à ce jeune homme. J'ai dit à ce jeune homme, vends et suis-moi. C'est-à-dire, il faut me choisir. Parce que la vraie bénédiction vient de ce que moi je donne. Car à quoi bon gagner le monde si on perd son âme? C'est ça que je suis en train de dire. Mais personne de vous qui aura abandonné toutes ces choses ne recevra en retour des richesses, des terres. Personne. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, forcément nous avons abandonné quelque chose. Certes, pour beaucoup de nous, il n'y a pas trop à regretter ce qu'on a abandonné. Mais même si tu as abandonné une miette, Jésus te dit que tu recevras en retour des vraies richesses. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas recherché ces choses. Jusqu'ici, nous n'avons pas recherché. Et lorsque vous allez lire dans le Nouveau Testament, vous allez voir véritablement que Jésus insiste sur le développement de nos vies. Il insiste. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est venu sur la terre et il est donné à tout homme. Il est à la disposition de toute personne. Toute personne qui croit. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu veut développer? D'abord, les talents que nous avons reçus. Tout homme a reçu des talents. Un talent peut être une qualité, une performance à faire quelque chose. Certains ont reçu des talents dans les mains. D'autres ont reçu des talents dans la voix. Par leur voix, ils font la différence. Nous avons d'autres ont reçu le talent dans le pied. Lorsqu'ils touchent la balle, ils savent faire tourner d'une certaine manière. Donc, ils ont reçu des talents et dans le monde, ils développent ces talents. Ils développent, ils deviennent des athlètes professionnels à cause du talent qu'ils ont reçu. Ceux qui ont reçu l'intelligence par des choses qu'ils fabriquent avec des mains, eh bien, ils nous fabriquent toutes sortes de choses et on est bien content. Certains ont reçu une capacité de discerner des choses cachées. Eh bien, ils écrivent des livres. Chacun développe son talent. Et je peux vous dire que Dieu n'est pas contre ça. Lorsque les hommes vont à la lune, Dieu n'est pas contre. Parce qu'il a dit, voilà, dominer, développer. Dieu, comment l'homme arrive à faire ces choses? C'est parce qu'il a reçu en lui un potentiel. Et qui lui a donné ce potentiel? C'est Dieu. Et c'est pour ça que dans le monde, il y a des personnes qui nous font avancer tous. Par les talents qu'ils développent, talents de communication. Ils développent toutes sortes de talents. Mais les chrétiens aussi ont reçu des talents. Mais ces talents-là sont bloqués par l'esprit du sous-développement qui est l'esprit de mort que nous avons vu tout à l'heure. L'esprit de mort qui t'empêche de travailler. L'esprit de mort qui t'empêche d'écrire ton livre. L'esprit de mort qui t'empêche de développer ton entreprise. L'esprit de mort qui te fait ressembler à ce peuple assis dans la vallée des ossements. Mais Dieu soit loué, il y a, peut-être même dans ce pays, mais surtout dans d'autres pays, des chrétiens qui font avancer aussi la vie de la société, qui découvrent des choses, qui développent des entreprises, qui créent des nouvelles technologies. Ça existe. Ça existe. Mais pour nous, cela reste à démontrer. Mais Jésus nous a donné encore d'autres choses. Quelque chose de très spécial. Un jour, le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, et aux autres aussi, qui dit-on que je suis? Oh, on dit que tu es le prophète, que tu es Jean-Baptiste qui est revenu, que tu es Élie, que tu es l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, le grand Pierre s'est levé. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, le Seigneur dit, oh, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas ta propre réflexion. Mais c'est mon Père. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Et cette révélation était nécessaire. C'était comme un point d'alliance entre le Seigneur et son Père. C'est-à-dire que jusqu'ici, il a travaillé il a cherché l'anonymat. Jusqu'ici, il a dit, chaque fois qu'il a fait un miracle, il dit, ne dites pas. Jusqu'ici, il est au milieu de ses apôtres, ses disciples, mais ils ne savent pas qui il est vraiment. Et il attendait que cette révélation descende dans leur cœur. Et lorsque Pierre a dit, il a reconnu que maintenant, son Père avait donné le signal pour lui de placer une dynamique nouvelle au milieu des hommes, qui est l'Église. Il dit, tu es Pierre, le roc. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Je veux bâtir mon église. Sur ce roc qui représente la foi dans le Christ, c'est-à-dire le Rédempteur, la lumière des nations, le Fils du Dieu vivant, celui qui ôte le péché du monde, celui qui enlève la malédiction, celui qui accorde la bénédiction, celui qui fait rentrer dans le royaume de Dieu. Et à partir de ce moment, le Seigneur lui-même, il dit, voilà, pour mon église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Mais c'est quoi les portes de l'enfer? Tout à l'heure, nous avons lu dans Ézéchiel, Ézéchiel 37. Lorsque Dieu est en train de décrire cette situation, nous sommes là en train de voir que l'esprit de mort avait prévalu sur le peuple de Dieu. L'esprit de mort, Israël représente la préfiguration de l'Église. Mais cette fois-ci, le Seigneur dit que les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Cela veut dire que par les enseignements qu'il nous a donnés, nous ne pouvons pas nous retrouver comme dans la vallée des ossements. Et surtout, il y a une parole très importante que vous devez maintenant intégrer dans votre entendement, dans votre raisonnement de tous les jours, qui est la vocation de l'Église. La vocation de l'Église. Cette parole dit que la création tout entière soupire avec un ardent désir et attend la révélation des fils de Dieu. La création tout entière, c'est-à-dire le monde entier, tous les peuples, tous les hommes, ils soupirent. Pourquoi? Parce que la création a été soumise à la vanité. Parce que les puissances du sous-développement, comme nous avons vu la dernière fois, se manifestent. Même les pays développés ne sont pas à l'abri de l'action de ces puissances-là. Qu'est-ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale? Qu'est-ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale? C'est très facile pour un pays développé à un certain moment, par l'action des esprits violents, de se retrouver précipité dans le sous-développement. Un pays comme l'Irak. L'Irak pouvait faire partie des pays développés, avec tout le pétrole qu'ils avaient. Après deux guerres, eh bien, ils ont rejoint les pays sous-développés. Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe s'est bien retrouvée dans une situation de sous-développement et il a fallu faire appel à l'Amérique par un plan Marshall pour pouvoir aider à nouveau l'Europe à retrouver le développement. Et pourquoi l'Amérique a été en position de pouvoir aider l'Europe? Ben c'est parce que lui, il était resté dans un état de développement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient épargnés par ces fléaux, par la guerre. La création tout entière attend. Et nous avons commencé à voir la dernière fois que dans nos vies, il y a des choses qui ne vont pas. Non seulement que nous avons reçu les dons comme tout le monde, qui travaillent dehors, qui font avancer des choses. Certains sortis d'ici, on va courir au McDonald's. Oui, McDonald's travaille son argent. Toi aussi, tu peux trouver le moyen de commencer toi aussi à pouvoir travailler de l'argent. Mais lorsque nous rentrons dans le contexte de l'Église, nous avons reçu les dons du Saint-Esprit. Et je vous ai dit la dernière fois que tout ce que nous recevons cela dans un état primaire. Ce sont des choses à développer. Lorsqu'on te dit que tu as reçu un don de prophétie, ce n'est pas pour autant que ton don est développé. Il est là en toi, mais la capacité de prophétiser, tu vas la développer. Mais à force d'enseignement, à force de prophétiser, la personne va comprendre qu'effectivement, maintenant, elle doit rester calme d'abord, qu'il ne faut pas aller dans une dimension charnelle, et bien tu libères le flot. Ainsi parle l'Éternel. Mon peuple, j'ai entendu ton cri et je me lève pour t'exaucer. Il y a des personnes, donc lorsqu'ils prophétisent, vous voyez une prophétie, vous dites oui, ça c'est une prophétie bien développée. Nous avons reçu toutes sortes de dons. Allons-y dans Éphésiens 4 pour que nous puissions comprendre que l'Église ne doit pas rester dans un état de sous-développement parce que l'Église est à construire. Éphésiens 4, nous allons lire à partir du verset 4.
Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même, qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
J'aimerais que vous puissiez retenir deux mots. Deux mots pour lesquels les dons et les ministères ont été donnés. Quel est le premier mot? Perfectionnement. Deuxième mot, édification. Voilà. Donc, le perfectionnement des saints. Notre vie doit être perfectionnée. Oui. C'est pour ça que tu as reçu un ministère. C'est pour ça que tu dois enseigner, pour perfectionner la vie des saints. Pourquoi? Parce que si la vie des saints n'est pas perfectionnée, ils ne seront pas la lumière de leur génération. Ils ne seront pas respectés. Ils ne seront pas craints. Regardez les apôtres. C'était des personnes qu'on appelait les gens du peuple. Mais lorsqu'ils ont reçu la gloire de Dieu, lorsqu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est devenu des gouverneurs, des personnes très importantes. Mais si toi qui as reçu le ministère, si tu ne perfectionnes pas ta vie, comment tu peux perfectionner la vie des autres? Si ta vie est archaïque, elle n'est perfectionnée dans aucun domaine, comment tu peux aller perfectionner la vie des autres? Il faut prendre conscience de ça. Parce que nous péchons devant Dieu en restant là les bras croisés avec tout ce que nous avons reçu. Il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Il faut abandonner l'esprit de mort. Ce n'est pas Dieu qui nous condamne à la vie que nous menons. Dieu veut véritablement le perfectionnement. Il a donné des ministères et des dons. Ces choses doivent se conjuguer pour pouvoir perfectionner la vie des saints. Ça veut dire que lorsque le Seigneur dit le juste possédera le pays, à cause du perfectionnement de nos vies, au niveau de la connaissance, au niveau de l'économie, au niveau de dans tous les domaines, c'est alors que nous serons capables de pouvoir gouverner le pays et d'établir la justice de Dieu. Il y a au milieu de nous, tout à l'heure je parlais des talents, il y a au milieu de nous des personnes qui sont douées par exemple pour apprendre des langues. Mon épouse par exemple est douée pour apprendre des langues. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. Mais pour autant ces personnes ne voient pas l'utilité d'aller apprendre l'anglais, ni l'espagnol, ni l'italien, ni le swahili, ni l'ingala. Et pourquoi vous rigolez lorsque je dis l'ingala? Mais oui, si Dieu t'envoie... Si Dieu t'envoie au Congo, tu aurais un avantage. Pour vous qui êtes formés pour être des évangélistes. Voyez? Si maintenant tu es évangéliste, ça veut dire que Dieu va t'envoyer pour gagner des âmes en foule. Mais si Dieu t'envoie dans un pays anglophone, tu es bloqué. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que Dieu t'avait donné aussi une faculté à connaître les langues. Mais comme on n'est pas perfectionné, on reste archaïque. Il y a des personnes qui ont reçu un don naturel au niveau de la gestion. Ce sont des personnes qui savent gérer. Des personnes qui savent gérer. Voyez? Même dans les foyers, lorsque tu vois même le revenu de la famille est vraiment petit, mais la personne, comment la maman, elle arrive à gérer jusqu'à la fin du mois, tout le monde mange bien. Mais vous croyez que ses capacités de gestion ne feraient pas la différence à la tête d'une entreprise? C'est la réalité. Nous restons à l'état archaïque. Après, on dit, oh, ces gouvernants-là, ah oui, le président, ah oui, les ministres, ah oui, toi aussi, tu es ministre. Lorsque nous sommes en France, nous disons que oui, c'est très difficile en France. Seigneur, tu nous as envoyés en France, mais c'est trop difficile pour le réveil. Le peuple français ne veut pas de Jésus. Le peuple français ne veut pas de ceci. Mais dans la réalité, lorsque vous regardez bien, ce n'est pas de Jésus que le peuple ne veut pas, c'est de nous qu'ils ne veulent pas. Mais oui, c'est de nous. Parce que effectivement, l'image que nous projetons n'est pas une image attractive. Parce qu'il dit, non, mais si votre Jésus, si c'est lui qui vous a rendu comme ça, non, on ne veut pas. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on se développe. Il faut qu'on se développe. Les enseignements du Seigneur sont là pour le perfectionnement des saints. Nous devons nous perfectionner. Donc, il n'y a pas de raison qu'on reste là, les bras croisés, ou qu'on prenne du n'importe quoi, qu'on met sur nous, parce qu'on veut montrer que, bon, ben voilà, lorsque dans la parole où le Seigneur a dit, celui qui va le suivre recevra des maisons, des terres, de ceci, tout ça, nous n'avons pas compris tout ça. Nous avons seulement compris, nous avons seulement entendu le mot qui dit tribulation. Eh ben, tu prends toutes les tribulations, tu mets sur la tête, et puis voilà, c'est avec ça que tu marches. Jésus a dit des maisons, des terres, toutes ces choses. C'est vrai. Les chrétiens sont devenus des souffres-douleurs. Non pas parce qu'on les oppresse, mais nous-mêmes, persécutés par des esprits de mort, par une mentalité archaïque, sous-développée. Mais oui, c'est ça la réalité. On veut que le combat spirituel, souvent nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Mais oui, tu ne veux rien faire. Après, tu dis, ah, Seigneur, vois ma misère. Mais Jésus dit, mais je vois bien. Je vois bien. Je vois bien, c'est l'accomplissement de ma parole. Mais oui, j'ai dit que si tu restes les bras croisés, tu verras la pauvreté va t'envelopper. Et c'est ce qui arrive. Je vois bien. Mais j'attends que tu réagisses, que tu comprennes ma parole, mes enseignements, les paraboles. Je t'ai donné des talents. Tu es prophète, tu es ceci. Je t'ai donné des talents merveilleux, des dons du Saint-Esprit, même des esprits de discernement. Mais comment se fait-il que tu ne discernes pas les esprits de mort dans ta vie? Lorsque Jésus dit que vous recevrez, même si tu as quitté tes parents parce que le jour que tu t'es converti, tout le monde t'a abandonné. Mais Jésus dit que tu vas recevoir en retour des mamans, des papas, de ceci et tout ça. Mais tout ça, nous n'avons pas compris. Oh Seigneur, je suis seul. Je suis seul. C'est l'esprit de mort qui fait ça. Oui, c'est l'esprit de mort. Parce que si tu abandonnes l'esprit de mort, si tu ouvres les yeux, eh bien tu verras que tu n'es pas seul. Tu verras même que tu as des associés. Tu viens là avec ton idée, j'ai une entreprise, tu auras des associés. Et l'autre mot que nous avons entendu tout à l'heure, c'est le mot édification. Édification veut dire quoi? Veut dire bâtir, construire. C'est-à-dire que lorsque Jésus a dit, je bâtis mon église, l'église représente pour nous qui avons reçu, c'est comme un concept, c'est comme un plan, c'est comme un programme. C'est comme lorsque le Seigneur dit aux enfants d'Israël qui se sont retrouvés en captivité à Babylone et qu'ils essayaient de se débattre, qu'ils voulaient repartir parce qu'ils se disaient que si on était en Israël, on n'allait pas mourir de faim, on n'allait pas être ceci. Jésus leur a dit, restez là où vous êtes. Dans mon programme, vous allez rester 70 ans là-bas. Alors, donc, maintenant, au lieu de rêver de votre vie d'avant, alors, levez-vous pour vous développer. Plantez des vignes, faites des jardins, bâtissez des maisons, développez-vous, ne diminuez pas, avancez, parce que vous allez rester jusqu'à 70 ans. Mais j'ai un plan pour vous, plan de paix et non de malheur. Ça veut dire que si vous êtes dans le malheur, ce n'est pas par ma faute, mais c'est vous-même, parce que vous n'aurez pas fait ce que j'ai dit, c'est-à-dire bâtissez des maisons, plantez des jardins, développez-vous, ne diminuez pas, parce que c'est là mon plan. Je vous exaucerai, parce que je ne veux pas que vous puissiez diminuer, je ne veux pas que vous soyez misérables. Priez même même pour la paix de la ville dans laquelle vous êtes, parce que votre propre paix dépend de cette ville. Mais j'aimerais surtout que vous puissiez impacter cette ville. J'aimerais que vous soyez la lumière de cette ville. J'aimerais que cette ville se souvienne de vous. J'aimerais ces choses. C'est ça l'église. Lorsque Jésus disait à ses apôtres, je vous donne les clés du royaume de Dieu. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié. Liez-moi les puissances des ténèbres, les esprits de mort. Mais ce que vous allez délier, délier la bénédiction, perfectionner les vies de mes serviteurs, développer les nations, devenir la lumière. Je vous ai donné tout le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est lorsque vous portez beaucoup de fruits que mon Père est glorifié. C'est lorsque vous allez porter beaucoup de fruits que les hommes vont voir. Oh, la lumière, que les hommes vont venir vers moi. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. C'est-à-dire, tout ce que Satan fait ne doit pas prévaloir sur l'église. Mais pourquoi nous sommes en train de combattre tout le temps? Ça veut dire qu'on est liés. À quel moment nous allons édifier l'église? Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit à Moïse. Il a dit à Moïse de bâtir le tabernacle selon le modèle, selon ce que tu as vu qui a été bâti là où tout est parfait. Donc je ne vous demande pas moins, je ne veux pas des choses bancales, je ne veux pas un tabernacle méprisable, mais je veux la gloire de Dieu, je veux que les choses soient en or, je veux qu'il y ait des pierres précieuses partout, je veux la gloire de Dieu. Mais le tabernacle, toutes ces choses représentent la préfiguration de l'église. L'église, c'est la perfection du Seigneur. L'église, c'est la gloire de Dieu. Donc, ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, bâtissez mon église, édifiez mon église selon le modèle que vous avez reçu. Non pas selon votre mentalité. Non pas avec vos manques, non pas avec votre pauvreté, mais avec ce que je vous ai donné. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? C'est la richesse. C'est toutes ces choses. Mais pourquoi nous n'en avons pas? Parce qu'on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas. Et puisqu'on ne veut pas recevoir ces choses, donc nous disons, hey, Seigneur, nous ne pouvons pas bâtir ton église. Et si nous pouvons bâtir, que ça ne soit pas selon ton modèle, laisse-nous bâtir une église qui n'est pas attractive. Une église que l'on peut mépriser. Laisse-nous être un peuple misérable. Laisse-nous être des souffres-douleurs. Il faut prendre conscience de ces choses. Le sous-développement s'est installé dans notre culture, dans notre mentalité. Donc on va passer du temps à se plaindre. Nous allons passer du temps à nous plaindre. Et pendant ce temps, les autres, ils font quoi? Ils se battent et ils travaillent. C'est là qu'il faut maintenant commencer à aller déloger le sous-développement culturel. Parce que selon les peuples, nous voyons qu'il y a des peuples qui arrivent en France, eh bien, qui commencent à se plaindre, à ressasser les choses du passé. Oh, la colonisation, oh, l'esclavage. Pendant ce temps, il y a d'autres peuples, lorsqu'ils arrivent dans le même pays, pendant que toi, tu te plains là-bas, ils travaillent, ils sont maintenant dans le 13e, là-bas, c'est eux qui possèdent, ils sont dans ça, c'est maintenant la restauration, c'est eux, oh, je m'en vais chez les Chinois, oh, et tout ça, tout un tas de choses. L'Indien aussi arrive, et il t'emmène, ça commence à soupe avec un peu de piment ou je ne sais pas quoi. Ah, maintenant, je veux manger indien. Quand tu vas manger déjà ta propre nourriture? Et les autres aussi. Voyez, il y a des peuples qui sont complètement enclavés dans le sous-développement. Même en France. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, il n'y a rien qui sort de ce peuple. Qui montre qu'ils ont développé les talents qu'ils ont reçus. Qui montre qu'ils ont manifesté le potentiel qui est en eux. Et lorsqu'on vient maintenant, on dit, bon voilà, nous sommes un peuple nouveau. Nous sommes un peuple, nous, c'est nous les chrétiens. Et ça tombe bien. Ça tombe bien, comme ça on peut renouveler toutes choses. Comme ça on peut se baser sur les enseignements de Christ pour pouvoir devenir la lumière. Mais lorsqu'on arrive au milieu de nous, c'est difficile. C'est difficile. Il n'y a pas de développement. Nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous dit de faire. Nous ne pouvons pas payer des dîmes. Nous ne pouvons pas faire des choses. Donc Dieu devient menteur. Lorsqu'il nous dit de faire telle chose, il est en train donc de nous blaguer. Lorsque Dieu nous dit oui, mes enfants, allez-y à Bercy. Allez-y faire un programme de gospel à Bercy pour que la France soit bénie, pour qu'on voit la gloire de Dieu, qu'on voit les dons que je vous ai donnés, les talents, la musique et toutes ces choses. Nous allons dire, mais Seigneur, tu nous blagues là. Mais non, Dieu ne nous blague pas. Il est en train de nous montrer que vous vivez en deçà de la vie que vous devrez mener. Dieu est en train de vous montrer que vous n'êtes pas en harmonie avec ma volonté. Parce que ma volonté, c'est que vous soyez capable d'aller là où je vous dis. Parce que c'est là-bas que nous allons briller. C'est là-bas que les gens qui ne peuvent pas venir ici vont voir, qui disent, oh, mais quel talent! Mais quel musicien ils ont! Et lorsque les gens auront vu toutes ces choses, lorsque même Johnny va voir à la télé que les vrais musiciens sont ici, il va se dire, non, il faut que j'aille voir le pianiste, le guitariste, le bassiste et tout ça. Et lorsqu'il va chercher les coordonnées, il sera obligé d'arriver là au milieu de nous. Et par ce chemin, on va dire Jésus. On peut même dire que tu veux notre bassiste? Bon, on te le prête pour un concert. Après, on prie. Après, lorsque Stéphane joue une note, boum, Johnny, quelque chose se passe. Mais oui. Mais pour ça, il faut se développer. Oui, nous devons être la lumière. Nous devons être un peuple attractif. Les hommes d'affaires doivent venir au milieu de nous. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons notre forum des entreprises, ils vont venir. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'au milieu de nous, il y a des grands entrepreneurs. Mais s'il n'y a personne, s'il n'y a pas d'entrepreneurs, ils ne peuvent pas venir. Parce qu'ils vont se sentir des corps étrangers. Parce qu'ils disent non, c'est des rêveurs. Mais il faut qu'ils sachent que, ah, un tel est chrétien, il est dans cette association. Oh oui. Ah, mais si un tel est là, eh bien, il faut qu'on aille. Parce que celui-là, c'est vraiment la crème des entrepreneurs en France. C'est important. Il faut se développer aujourd'hui. Parce que nous péchons et nous retenons captif l'église du Seigneur. Nous retenons captif le royaume de Dieu. Que nous n'arrivons pas à faire la promotion du royaume de Dieu. Mais pendant ce temps, si nous ne développons pas le royaume de Dieu, qu'est-ce qui se développe? Des mauvaises choses. Des mauvaises choses. On passe le temps à se critiquer les uns les autres. À se jalouser, effectivement. Oh, un tel. Ah, où est-ce qu'il a eu cette voiture-là? Ah, tu as vu tel pasteur? L'argent de l'église. Il est en train de manger l'argent de l'église. Comment il a pu s'agir? Ah, mais regarde comment il a, là où il habite. Regarde, tu as vu même la cravate qu'il porte là. Où est-ce qu'il a eu l'argent? Comme si un pasteur ne peut même pas s'acheter une cravate. Mais attends. Dieu a dit, ne bénissez, ne maudissez pas. Donc, on est même la bénédiction devient quelque chose de curieux au milieu de nous. On n'accepte même plus la bénédiction. Un contrat sous la malédiction. Moi, je ne suis pas dans ce contrat. Moi, je ne suis pas dans ce contrat. Cette vie chrétienne n'est pas la bonne. N'est pas la bonne. Ce n'est pas là l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas là l'enseignement de Jésus. C'est lorsque vous porterez beaucoup de fruits. Mais c'est quoi le fruit? Le fruit, c'est tout ce que tu produis, qui est un résultat de quelque chose que tu as fait. C'est un fruit. Non seulement les dons du Saint-Esprit que nous savons, le fruit de l'Esprit, que nous savons que la paix c'est un fruit, ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois produire en toi, que Dieu doit produire en toi. Mais il y a toutes sortes de fruits. Toutes sortes de fruits. Lorsque tu développes ton entreprise, c'est un fruit que tu as développé. Tu apportes des choses, un fruit ça se mange. Un fruit, ça se mange. Ça veut dire que les hommes vont manger et ils reconnaîtront que c'est un fruit. Lorsque tu crées du travail, c'est un fruit pour celui qui est embauché. Parce qu'il va manger ce travail. Il va gagner de l'argent pour faire vivre sa maison. C'est ça un fruit. Un fruit, c'est quelque chose qu'on peut manger. C'est comme la paix. Si tu arrives à côté dans ma maison, Si ma maison est dans la paix et que toi-même tu rentres dans cette paix, tu vas commencer à manger cette paix. Ça veut dire que là où tu étais, peut-être tu avais mal au nerf. Eh bien maintenant tu vas être guéri parce que tu as mangé la paix que je t'ai donnée. Il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas la paix. Et le Seigneur dit que c'est lorsque vous portez beaucoup de fruits, ça veut dire que c'est lorsque vous allez produire ces choses, lorsque vous allez être développé, lorsque vous allez édifier de grandes choses, que mon Père va être glorifié. Mais glorifié par qui? Glorifié par ceux qui, au travers de ce que nous allons faire, vont dire, oh, amen, alléluia, oh, Dieu est grand, leur Dieu est grand. Il sera glorifié non pas seulement par nous seulement, mais par ceux qui voient notre fruit, par ceux qui goûtent à ce fruit. Je vous ai dit que lorsque nous sommes allés au pavillon Baltar, que nous avons fait ce concert, et que même et que dans le feedback que nous avons reçu, les gens ont dit, mais vraiment, on a parlé de la gloire de Dieu. À tel point que le responsable de la société de sécurité que nous avons pris, qui a travaillé à la fin, il est venu me dire, Monsieur Goma, vous savez, nous aussi, on est chrétiens. Nous aussi, on est chrétiens. Parce que ce jour-là, ils ont vu la gloire des fils de Dieu. Là où ils étaient peut-être des chrétiens honteux, ils ont trouvé ce jour-là l'occasion de se réjouir en Dieu. De dire, Seigneur, nous aussi, on est tes enfants. Certainement, lorsqu'il est rentré à la maison, il s'est agenouillé. Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Mais oui, c'est alors que mon Père sera glorifié. À partir d'aujourd'hui, prenons conscience qu'au lieu de condamner nos nations sous-développées, au lieu de condamner le quartier dans lequel tu t'es retrouvé enclavé dans le sous-développement, que ce soit, je ne veux pas citer des quartiers, mais peu importe là où tu habites, commence à te soucier du potentiel que Dieu a mis en toi et commence à le développer. Et souvent, c'est dans des milieux où il y a tous ces besoins-là que ton potentiel va aussi faire la différence. Là où il y a le sous-développement, il y a des besoins. Et qui vient pourvoir à ces besoins? C'est ceux qui sont déjà développés. Ou alors ceux qui quittent certains pays, comme on a dit, qui vient te fournir ton sakasaka que tu veux manger, il va juste dans ton pays aller prendre le sakasaka pour venir te le faire manger, alors que c'est ton pays. Et lui, il se développe. Et souvenez-vous, Deutéronome 28. On va terminer par ça. Deutéronome 28, verset 43 et 44.
L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi et elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit.
Amen. L'étranger sera la tête et tu seras la queue. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel. Quelle est la voix de l'Éternel? C'est les enseignements que Jésus nous a donnés. Si aujourd'hui tu ne comprends pas que Dieu veut ton développement, alors ces malédictions-là viendront sur toi et ils te tiendront en bas. Mais ce n'est pas là ta place. Parce que ton Dieu a dit tu seras en haut et non en bas. Tu seras la tête et non la queue. Alors, tout simplement, ce que j'aimerais vraiment encourager chacun de nous, c'est qu'à un certain moment de l'histoire, nous pouvons nous retrouver à la queue. Mais lorsque nous prenons conscience de ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'on fait? On quitte la queue et on passe à la tête. Lorsque nous découvrons que nous sommes en bas, comme là dans la vallée des ossements, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille, on se lève et le Seigneur fait souffler sur nous l'esprit de vie et nous sommes en haut et non en bas.